بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال الحديث مع الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله عليه وغفر الله له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Donc nous continuons toujours la lecture et l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi, qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde. Et aujourd'hui nous sommes arrivés au hadith 19. Donc nous allons commencer par la lecture du hadith. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Donc d'après Abi al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit « Un jour j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il m'a dit « Ô jeune homme, je vais t'apprendre certaines paroles. Préserve Allah azza wa jal et Allah azza wa jal te préservera. Préserve Allah subhanahu wa ta'ala et Allah sera devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah. » Et lorsque tu sollicites l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et sache que si la communauté tout entière se regroupait pour te faire un bien, tu n'en profiterais que si Allah Azza wa Jal l'a inscrit ainsi. Et si toute la communauté se réunissait pour te faire un mal, ce mal ne te toucherait que si Allah Azza wa Jal l'a écrit contre toi. La plume est rangée et les feuilles ont séché. Et ceci est rapporté par Tirmidhi, et il dit c'est un hadith hasanun sahih. Et dans une autre version, autre que celle de Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Sois attentif envers Allah, tu le trouveras devant toi. Rappelle-toi d'Allah azawajal dans l'aisance. Allah azawajal se rappellera de toi dans l'adversité, dans la difficulté. Et sache que ce qui t'a manqué ne t'était pas destiné, et ce qui t'a atteint ne pourra te manquer. Et sache que la victoire accompagne la patience et que le soulagement arrive après la difficulté et que avec la difficulté, il y a la facilité. Voilà le hadith. Awalan tarjamatu rawi al-hadith. Premièrement, voyons une brève biographie du rapporteur du hadith. Rawi al-hadith huwa Abdullah ibn Abbas. رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو العباس. Donc le rapporteur du hadith c'est Abdullah ibn Abbas c'est le cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa kunya est Abu al-Abbas. ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات. Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما est né à la Mecque 3 ans avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. وهو بحر هذه الأمة وحبرها وسمي بترجمان القرآن. Et Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما, c'est l'océan de cette communauté vu l'abondance de sa science. C'est aussi le savant de cette communauté et l'interprète du Coran. Lahu manaqibu kathira. Abdullah ibn Abbas a beaucoup de mérites, beaucoup de vertus que nous allons citer. Awalan da'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lahu bil ilmi wal hikmati wal fiqh fi ad-din. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations en sa faveur pour qu'Allah Azza wa Jal accorde à Abdullah ibn Abbas la science, la sagesse et la compréhension de la religion. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ضمنني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الكتاب. هذا في صحيح البخاري. وقال في صحيح البخاري في حديث آخر اللهم علمه الحكمة. Il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a serré contre sa poitrine Abdullah ibn Abbas en disant « Oh Allah Azza wa Jal, accorde-lui, enseigne-lui le Coran. Oh Allah Azza wa Jal, enseigne-lui la sagesse. » ويقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة وهي خالته فوضعت وضوءا من الليل فقالت ميمونة يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وهذا أخرجه ابن حبان. ابن عباس رضي الله عنه ندي qu'il était chez Maymouna, qui est l'épouse du prophète صلى الله عليه وسلم et qui est la tante de عبد الله بن عباس. Et Abdullah ibn Abbas avait préparé de l'eau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il fasse ses ablutions. Et Maymouna a dit au prophète, ô prophète d'Allah, voilà de l'eau que Abdullah ibn Abbas a préparée pour toi. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les invocations suivantes en disant, ô Allah, accorde-lui la science et donne-lui la compréhension, la bonne compréhension de la religion. Thaniyan min manaqibihi thana'u as-sahabati wat-tabi'in lahu. Deuxièmement, parmi les mérites, les vertus de Abdullah ibn Abbas, c'est les éloges faits par les compagnons et par les tabi'oun, ceux qui ont suivi les compagnons, en faveur de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Yaqulu Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, ni'ma turjumanu al-Qur'an ibn Abbas. Wa hadha akhrajahu al-Hakim. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, disait, quel merveilleux interprète du Coran qui est Abdullah ibn Abbas. Ceci a été rapporté par Al-Hakim. Wa yaqul ibn Umar radiyallahu anhuma ibn Abbas a'lamu an-nas bima anzala Allah 'azza wa jalla 'ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa hada fi tahdhib at-tahdhib. Ibn Umar radiyallahu anhu disait, celui qui connaît le mieux ce qu'Allah 'azza wa jalla a révélé sur son prophète, c'est Abdullah ibn Abbas. Wa yaqul Muhammad ibn Ali رضي الله عنه يوم مات ابن عباس اليوم مات رباني هذه الأمة وهذا أخرجه الحاكم. Et Muhammad ibn Ali رضي الله عنه a dit, le jour de la mort de Abdullah ibn Abbas, aujourd'hui est mort l'éducateur, le savant de cette communauté. وقال مجاهد رحمه الله كان ابن عباس سمي البحر لكثرة علمه. مجاهد rahimahullah ta'ala disait, Ibn Abbas était surnommé l'océan et ceci en raison de l'abondance de sa science. Et ça a été rapporté par Al-Hakim. Wa qala Masruq rahimahullah ta'ala, kuntu idha ra'aytu Ibn Abbas qultu ajmalu an-nas. Wa idha nataqa Ibn Abbas qultu afsahu an-nas. Wa idha tahaddatha Ibn Abbas qultu a'lamu an-nas. وهذا ذكر في سير الأعلام النبلاء للذهبي. مسروق رحمه الله disait, lorsque je regardais Abdullah ibn Abbas, je disais, il était le plus beau des hommes. Et lorsque Abdullah ibn Abbas s'exprimait, je disais, il était le plus éloquent des hommes. Et lorsque Abdullah ibn Abbas parlait, je disais, il est le plus savant des hommes. Et ceci a été rapporté par Al-Dhahabi dans son livre Siyar A'lam al-Nubala. وابن عباس رضي الله عنه هو أحد المكثرين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وله في كتب الحديث 1660 حديث منها 264 في الصحيحين. Et Abdullah ibn Abbas fait partie parmi les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم de ceux qui ont rapporté le plus de hadith. Après Abu Huraira, après Abdullah ibn Umar, après Anas ibn Malik, après Aïcha radiallahu anha, vient Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum. Et on retrouve 1660 hadiths rapportés par Ibn Abbas dans les livres du hadith, dont 264 se retrouvent dans l'authentique de Bukhari de Muslim. Wa tuwfiya sanat 69 fi Taif radiallahu anhu. Et Abdullah ibn Abbas est mort l'année 69 à Taif à l'âge de 72 ans radiallahu anhu. Voilà pour ce qui concerne Abu al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, ibn Ammi Rasulillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Thaniyan, manzilatul hadith. Deuxièmement, l'importance du hadith. En quoi ce hadith est-il un hadith important? هذا الحديث حديث عظيم وأصل كبير في رعاية حقوق الله عز وجل والتفويض لأمره والتوكل عليه في لفظ ظاهر بين سهل بسيط. Donc ce hadith est un hadith important et c'est un hadith, très grand hadith, dans le fait de respecter les droits d'Allah Azzawajal, dans le fait de s'en remettre à Allah Azzawajal, de lui faire confiance. Et ceci a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des termes clairs, simples et explicites que tout le monde peut comprendre. يقول ابن رجب رحمة الله عليه وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين حتى قال بعض أهل العلم تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. ابن رجب الحنبلي Rahmatullahi alayhi, dit dans son livre Jami'ul Ulum wal Hikam, ce hadith contient de précieuses recommandations et des règles générales qui relèvent des points des plus importants de la religion. À tel point que certains savants ont dit à propos de ce hadith, j'ai médité ce hadith et il m'a tellement étonné que j'ai failli m'étourdir. Et il disait, et il est à déplorer qu'il soit ignoré, que ce hadith soit ignoré et que l'on essaie si peu d'en comprendre ses sens. Voilà pour ce qui est de l'importance du hadith. Thalithan, ma yustafadu min hada al-hadith. Troisièmement, quels sont les enseignements à retenir de ce hadith? Et inshallah ta'ala, nous allons en citer 23. Awalan, hirsu an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ummatihi wa tawjihihim lima fihi al-khayr wa naf'u lahum. وغرس العقيدة الصحيحة السليمة في قلوبهم وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات. Première leçon que l'on peut retenir de ce hadith met en évidence le souci du prophète صلى الله عليه وسلم pour sa communauté. Il met aussi en évidence la préoccupation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à bien orienter sa communauté vers le bien et vers ce qui leur est profitable dans cette vie d'ici-bas et dans l'autre vie. Et il met en évidence l'acharnement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à enraciner la croyance saine et authentique dans l'âme des croyants, et notamment chez les jeunes. Parce que Abdullah ibn Abbas était jeune à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité ses hadiths. Et on retrouve cet enseignement dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ô jeune homme, je vais t'apprendre certaines paroles. » Al-fa'idatu thaniya, inayatu nabi sallallahu alayhi wa sallam bis-sighar, wa tawadu'uhu sallallahu alayhi wa sallam, wa mulatafatuhu bihim, wa hadha fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Kana nabi sallallahu alayhi wa sallam, يهتم بالناس جميعا حتى بالأولاد. وفي هذا إشارة إلى الاهتمام بتربية الصغار وتعليمهم أمور دينهم. Deuxième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, si on voit la bienveillance du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les jeunes et sa préoccupation envers eux. On voit aussi la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il passe du temps avec des jeunes et il leur donne des recommandations. Et on voit aussi la compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les jeunes générations. Et ceci, on le retrouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit à Abdullah ibn Abbas, « Ô jeune homme, je vais t'apprendre des paroles, je vais t'enseigner des paroles. » Et dans cela, il y a une indication à l'importance de l'éducation des jeunes générations et de leur enseigner leur religion et ce qui touche à leur religion et ce qui leur est profitable dans cette vie et dans l'autre. الفائدة الثالثة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم كلامه بقوله يا غلام إني أعلمك كلمات وهذا من أجل أن ينتبه ابن عباس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعيه ويحفظه. Troisième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, on voit ici le bon enseignement, la bonne éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté. Regardez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de donner ses recommandations, il a introduit ses recommandations par les paroles suivantes, en disant à Ibn Abbas, « Ô Abdullah, ô jeune homme, je vais t'enseigner des paroles. » Ceci pour attirer l'attention d'Ibn Abbas, et ainsi il retiendra les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. وكذلك ينبغي للعالم والمعلم التقديم بين يدي ذكر الأمر المهم بما يحفظ النفوس إليه ويشحذ الهمم ويوجب لفت الأنظار والانتباه. Et ainsi, on retire de cet enseignement qu'il convient aux savants, il convient à l'enseignant, au père de famille, à la mère de famille, de faire une introduction avant d'aborder des sujets très importants. Parce que ceci incite les âmes à l'attention, stimule la motivation et attire l'attention des gens. الفائدة الرابعة حرص الصحابة رضوان الله عليهم على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا من علمه صلى الله عليه وسلم. وهذا في قول عبد الله بن عباس كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي للناس الحرص على القرب من أهل العلم ليستفيدوا من علمهم لأن العلماء ورثة الأنبياء كما ثبت ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. La quatrième leçon que l'on peut retenir de ce hadith met en évidence la motivation, le souci des compagnons رضي الله عنهم à être proche du prophète صلى الله عليه وسلم pour profiter de ses connaissances. Et ceci, on le tire de la parole d'Ibn Abbas lorsqu'il dit « Un jour, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'étais proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et ainsi, il convient aux gens en général d'être proche des savants, d'être en relation avec les savants pour profiter de leur science. Parce que les savants, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sont les héritiers des prophètes. Al-fa'idatul khamisa istighlalul waqt bima yufid. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يقطع الوقت بما يفيد من تعليم وتذكير وهذا في قوله لعبد الله بن عباس وهو خلفه يا غلام إني أعلمك كلمة. La cinquième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'il faut occuper son temps par ce qui est profitable et ce qui est bénéfique. Regardez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Il était en compagnie de Abdullah ibn Abbas et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a profité pour donner un enseignement et pour faire un rappel. Et ceci on le trouve dans la parole de Abdullah ibn Abbas lorsqu'il dit « Un jour j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète m'a dit « Ô jeune homme, je vais t'enseigner des paroles ». Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam profitait de toute occasion pour rappeler et enseigner ainsi le musulman doit profiter de toute occasion pour enseigner et pour apprendre aux gens. الفائدة الثالثة الاهتمام بالعقيدة فإن هذه الكلمات جميعها من أمور العقيدة. La sixième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, se dégage de ce hadith l'importance de la croyance. Car lorsqu'on médite ce hadith et les enseignements et les phrases contenues dans ce hadith, toutes les recommandations de ce hadith traitent des points de la croyance. Et ces paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit à un jeune homme. Al-fa'idatu s-sabi'a, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ihfadillah. Ma ma'na hadihi al-kalima? Ihfadillah, ya'ni, ihfad hudud Allah, wa huquqahu, wa awamirahu, wa nawahih, بفعل أوامره وترك نواهيه وتصديق أخباره خالصا لوجهه ووفقا لسنته صلى الله عليه وسلم. La septième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est concernant la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit à Abdullah ibn Abbas, sois attentif envers Allah. C'est comme ça qu'on va le traduire pour l'instant. Sois attentif envers Allah. Cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette expression signifie « Conforme-toi aux lois d'Allah azza wa jal et respecte ses droits, respecte ses ordres, ses interdictions, en observant les ordres d'Allah azza wa jal et en délaissant ses interdictions. Et en croyant à tout ce qu'Allah azza wa jal a révélé, et ceci sincèrement pour Allah azza wa jal et conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Voilà ce que veut dire « Ihfadillah ». Sois attentif envers Allah. وفي هذا إشارة إلى فضل العلم فإن العبد لا يستطيع حفظ حقوق الله وإقامة دين الله عز وجل وإقامة حدوده إلا عن طريق العلم والتعلم وإلا فكيف نحفظ حدود الله ولا نعرف ما هي حدود الله عز وجل. Et dans ce septième point que nous venons de citer, il y a une indication directe faite à l'importance et au mérite de la science. Vous me direz, d'où tire-t-on cet enseignement? On tire cet enseignement parce que la personne ne peut se conformer aux ordres d'Allah Azzawajal et pratiquer correctement la religion sans préalablement apprendre la religion et avoir de la science. Parce que la base de toute pratique correcte, c'est une intention sincère et une connaissance basée sur le livre d'Allah et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-fa'idatu thamina, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ihfadillah yahfadka. Ya'ni, anna man hafidha hudud Allah, wa ra'a huquqahu, hafidhahu Allah jalla wa ala. La huitième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que l'expression, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Sois attentif envers Allah », que maintenant nous traduirons « Sois attentif à la religion d'Allah azza wa jal » et « Allah azza wa jal te protégera », cette expression signifie que celui qui se conforme aux ordres d'Allah et qui respecte les recommandations d'Allah azza wa jal, Allah azza wa jal le préservera, Allah azza wa jal le protégera. وحفظ الله عز وجل لعبده يدخل فيه نوعان. Et la protection d'Allah عز وجل envers ses serviteurs est de deux sortes. حفظه جل وعلا له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وأهله وماله. Première forme de protection d'Allah عز وجل envers ses serviteurs, c'est lorsqu'Allah عز وجل protège le serviteur dans sa vie, dans ses biens, dans sa personne, dans sa santé et dans toute chose. Et il a été rapporté que des salafs, pieux parmi les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils étaient âgés, ils passaient la centaine d'années, ils étaient encore en forme. Une fois, Tabari, rahimahullahu ta'ala, était sur un bateau avec des gens et ils allaient arriver sur la plage. Et Tabari a bondi. Les gens étaient étonnés du bond de Tabari alors qu'il avait dépassé les 100 ans. Et eux, ils étaient incapables de faire ce que faisait Tabari, et ils étaient jeunes. Alors ils lui ont demandé, Tabari a dit, nous avons préservé les droits d'Allah Azzawajal dans notre jeunesse, Allah Azzawajal a préservé notre santé dans la vieillesse. Ihfadillah, yahfadka. Préserve la religion d'Allah, Allah Azzawajal te préservera. Wa an-naw'u ath-thani, wa huwa ashrafu al-hifdhayn, wa afdalihima, huwa hifdhullah Azzawajal. لعبده في دينه وإيمانه فيحفظه الله عز وجل في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة ويحفظ عليه دينه عند موته ف فيتوفاه الله عز وجل على الإيمان. الله يتوفانا على الإيمان والإسلام. Et la deuxième forme de protection d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs, lorsqu'on entend la parole du prophète, préserve les droits d'Allah, Allah Azza wa Jal te préservera, et qui est la forme la plus noble et la meilleure des deux, c'est celle qui consiste en ce qu'Allah Azza wa Jal préserve la religion de la personne, préserve sa foi, sa croyance, et le préserve et le protège des ambiguïtés qui égarent, des passions interdites, et qui préserve la religion de la personne au moment de sa mort et qui le fait mourir sur la foi et sur l'islam. Voilà l'essence de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ihfadillah yahfadka ». Al-fa'idatu al-tasi'a anna al-jaza'a min jinsi al-amal. Ay, faman hafidha din Allah, hafidhahu Allah azza wa jal fi dinihi wa dunyah. Waman adaa'a din Allah, fa inna Allah yudayyi'uhu. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. Neuvième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que la rétribution est de même nature que l'acte. C'est-à-dire, celui qui préserve la religion d'Allah Azza wa Jal, Allah le préservera. Et préservera sa religion et préservera sa vie et ses affaires d'ici-bas. Alors que celui qui délaisse la religion d'Allah Azza wa Jal et qui s'en écarte, Allah Azza wa Jal le délaissera et s'écartera de lui. Et ceci, on le retrouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Préserve la religion d'Allah, les droits d'Allah et Allah Azza wa Jal te préservera, te protégera. » وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ شَرْعِيَّةٌ دَلَّ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ أي أن الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. وقال تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وقال تعالى فاذكروني أذكركم وقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في صحيح مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة في صحيح مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وفي هذا الحديث في سنن أبي داود أي أن الجزاء من جنس العمل. Donc, et cette règle très importante, c'est-à-dire la rétribution, est de la même nature que l'acte. C'est une règle qui est prouvée et qu'on retrouve dans les textes du Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ces versets du Coran. Allah Azza wa Jal dit, si vous secourez la religion d'Allah, Allah vous secourt. Allah Azza wa Jal dit, respectez mon engagement envers moi et je respecterai le mien envers vous. Allah Azza wa Jal dit, rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Allah Azza wa Jal dit, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et Allah Azza wa Jal leur a fait oublier leur propre personne. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'authentique de Muslim, celui qui cache les défauts d'un musulman, Allah cache ses défauts. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui construit une mosquée sincèrement pour Allah, Allah azza wa jalla lui construira une maison dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, soyez clément envers les gens, et Allah azza wa jalla sera clément envers vous. Donc on voit bien que la rétribution est de la même nature que l'acte qui est commis par la personne. Al-fa'idatu al-ashira, أن من حفظ الله عز وجل كان الله معه جل وعلا يحفظه وينصره وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك ومعناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه كان الله معه في جميع الأحوال يحوطه ويرعاه في أمور دينه ودنياه كما يليق بالله جل وعلا. La dixième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que celui qui préserve les droits d'Allah, Allah Azza wa Jal est avec lui. Allah le préserve et Allah lui donne son secours. Et ceci, on le retrouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Préserve les droits d'Allah » et tu le trouveras devant toi. Cela signifie, celui qui préserve les droits d'Allah Azza wa Jal, qui respecte ses droits, Allah Azza wa Jal est avec lui, comme il convient à Allah Azza wa Jal, dans toutes les situations. Et Allah Azza wa Jal le protège et Allah veille sur cette personne, sur sa religion et sur ses affaires de sa vie d'ici-bas. Allahu Akbar. ومعيه الله عز وجل تنقسم الى قسمين معيه عامه ومعيه خاصه. Et l'accompagnement d'Allah عز وجل, c'est toujours difficile à traduire معيه, l'accompagnement d'Allah ou l'expression Allah est avec est de deux sortes. Il y a un accompagnement général et un accompagnement particulier. Qu'est-ce que cela veut dire? المعيه العامه هي تشمل كل احد من مؤمن وكافر وبر وفاجر وهي تقتضي علم الله عز وجل واحاطته بجميع الخلق وهذا نجده في ايات كثيره كقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم أينما كانوا إن الله بكل شيء عليم. L'accompagnement d'Allah Azza wa Jal en général englobe toute personne, qu'il soit croyant ou qu'il soit mécréant, qu'il soit obéissant ou désobéissant. Et cet accompagnement général d'Allah Azza wa Jal par rapport à ses serviteurs implique la connaissance et la science d'Allah Azza wa Jal sur toutes ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il n'y a point de conversation secrète entre trois, sans qu'Allah Azza wa Jal soit le quatrième. Ni entre quatre, sans qu'Allah soit le cinquième. Ni plus, ni moins que cela, sans qu'Allah Azza wa Jal soit avec eux, là où ils se trouvent, et Allah Azza wa Jal est savant de toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. وَالْمَعِيَّةُ الْخَاصَّةِ هِيَا مَعِيَّةٌ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ وأهل التقوى وأهل الإحسان وهي تقتضي التأييد والحفظ والإعانة من الله عز وجل لعبده كما قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع أبي بكر لا تحزن إن الله معنا. Et l'accompagnement d'Allah عز وجل envers son serviteur en particulier, elle est spécifique aux croyants, aux pieux et aux bienfaisants. Et cet accompagnement d'Allah Azza wa Jal implique l'aide d'Allah Azza wa Jal, sa protection et son secours. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah Azza wa Jal est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était avec Abu Bakr dans la grotte, lorsque le prophète a dit à Abu Bakr, n'aie pas peur, Allah est avec nous. الفائدة الحادية عشر أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه وصحته وغناه تعرف بذلك إلى الله ومن تعرف إلى الله بالطاعة في الرخاء عرفه الله عز وجل في حال الشدة فنجاه الله عز وجل من الشدائد وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة سبحانه وتعالى. La onzième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que le serviteur, la personne qui craint Allah Azza wa Jal, qui préserve les limites d'Allah, qui respecte ses droits dans l'aisance, dans la facilité, dans la santé, dans la richesse, quand tout va bien, lui, on peut dire de lui qui se rappelle d'Allah Azza wa Jal et qui se fait connaître d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui se rappelle d'Allah, qui se souvient d'Allah Azza wa Jal et qui se fait connaître d'Allah par son obéissance en période d'aisance, Allah Azza wa Jal se souviendra de lui et se rappellera de lui en période de difficulté, en période d'adversité et en période de gêne. Et Allah Azza wa Jal le préservera et l'épargnera et atténuera de lui cette gêne et cette difficulté. Et ceci, on le retrouve directement dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Rappelle-toi d'Allah dans l'aisance et Allah azza wa jal se rappellera de toi dans la difficulté, dans l'adversité, dans la gêne. » وَمَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لِعَبْدِهِ نَوْعَانِ مَعْرِفَةٌ عَامَّةٌ وَمَعْرِفَةٌ خَاصَّةٌ. Et lorsqu'on dit Allah Azza wa Jal se rappelle de son serviteur, le rappel d'Allah Azza wa Jal son serviteur est de deux sortes. Allah Azza wa Jal se rappelle son serviteur de manière générale et de manière particulière. فالأولى معرفة عامة وهي علم الله عز وجل بعباده واطلاعه على ما أصروه وما أعلنوه كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. La première forme de souvenir d'Allah Azza wa Jal envers son serviteur, c'est qu'Allah Azza wa Jal connaît ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal les observe, et ils observent ce qu'ils cachent et ce qu'ils font paraître. Et on retrouve le sens de cette ma'rifa dans la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit « Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. » Allah Azza wa Jal sait ce qui est caché, ce qui est visible et ce qui est caché, et il sait ce que notre âme suggère alors que personne ne nous entend. والمعرفة الثانية هي معرفة الله الخاصة وهي تقتضي محبته جل وعلا لعبده وتقريبه إليه وإجابته دعاءه وإن جاءه من الشدائد وهي المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. La deuxième forme de ma'rifa, c'est une connaissance d'Allah Azza wa Jal particulière. Qu'est-ce que ça veut dire? Celle-là implique, lorsqu'on dit Allah se rappelle de son serviteur, ça implique l'amour d'Allah pour son serviteur. Qu'Allah Azza wa Jal se rapproche de son serviteur. Qu'Allah exauce l'invocation de son serviteur et qu'Allah Azza wa Jal préserve son serviteur des difficultés qu'il rencontre. Et c'est de cette connaissance dont il est fait allusion dans le hadith que nous écoutons aujourd'hui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Rappelle-toi d'Allah dans l'aisance et Allah Azza wa Jal se rappellera de toi » dans la difficulté. الفائدة الثانية عشر أن المؤمن الصادق يعبد الله عز وجل في كل أحيانه في الرخاء والشدة. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأما الكفار والمشركون فالله عز وجل قال فيهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلص له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. المسلم المؤمن الصادق يعبد الله في الرخاء في الشدة أما غيره لا يعرف الله إلا في الشدة في الشدة يتوجه إلى الله أما في الرخاء يعرض عن الله عز وجل. نسأل الله العافية. La deuxième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que le véritable croyant adore Allah dans toute situation, dans la difficulté comme dans la facilité. Il n'oublie pas Allah Azza wa Jal dans la difficulté, mais il n'oublie pas Allah Azza wa Jal dans la difficulté. Et ceci, on le tire directement de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Rappelle-toi d'Allah Azza wa Jal dans l'aisance et il se rappellera de toi dans la difficulté. » Et ceci, le cas du croyant véridique, il est différent totalement du cas de l'hypocrite ou du cas de l'associateur. Allah Azza wa Jal dit à propos de l'associateur, il dit, quand il monte en bateau, il invoque Allah en lui réservant un culte exclusif, et une fois qu'il est sauvé des dangers de la mer, et il est amené à terre ferme, alors là il donne des associés à Allah Azza wa Jal. Il invoque Allah, et il invoque autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. الفائدة الثالثة عشر في هذا الحديث الأمر بسؤال الله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى فالله وحده يستعان به ولا يسأل سواه فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله الله فهو المخذول والعياذ بالله. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. La treizième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'il y a un ordre clair de demander à Allah Azza wa Jal. Que le croyant demande et adresse ses demandes à Allah Azza wa Jal. Et que le croyant sollicite l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant ne demande l'aide et ne sollicite le secours que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal accorde à son serviteur son aide, ce serviteur-là est un serviteur qui a été aidé. Et lorsqu'Allah Azzawajal abandonne une personne, cette personne-là, on peut dire d'elle que c'est une personne dépourvue et c'est une personne abandonnée. Et ceci, on le tire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu sollicites l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. » فالمسلم يعبد الله عز وجل وحده يسأله قضاء حاجاته ويستعين به في جميع أمور الدنيوية والأخروية بأخذ الأسباب المشروعة ويسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب لقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين نأخذ بالأسباب والذي ينفع بهذه الأسباب من هو؟ هو الله جل وعلا وهذا نجده في قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز في صحيح مسلم. Et aussi, dans la continuité de cette 13e leçon, ce hadith nous enseigne que le musulman adore Allah Azza wa Jal uniquement. Il n'adresse ses demandes et il sollicite ses requêtes qu'à Allah Azza wa Jal. Et il recherche l'aide d'Allah Azza wa Jal dans toutes les situations. Qu'il s'agisse de sa religion, il implore Allah et il demande l'aide d'Allah. Qu'il s'agisse des affaires de cette vie d'ici-bas, il demande l'aide d'Allah et il implore Allah Azza wa Jal, tout en utilisant les causes et les moyens qui sont légiférés. Et en demandant à Allah Azza wa Jal et en espérant d'Allah Azza wa Jal que ces causes soient profitables. Le musulman utilise les causes, mais ces causes ne sont profitables que si Allah Azza wa Jal l'a décidé. Tabaraka wa ta'ala. Et ceci, on le retrouve dans le Coran, dans un très grand verset, où Allah Azza wa Jal dit, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, et c'est toi, ce n'est que toi que nous adorons, et ce n'est que toi que nous implorons. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, cherche ce qui t'est profitable, et demande l'aide d'Allah, et ne baisse pas les bras. Et le hadith est rapporté par l'imam muslim. Donc le musulman utilise les causes, les moyens légiférés, tout en mettant sa confiance à Allah Azza wa Jal, en abandonnant son sort à Allah Azza wa Jal, et en ayant la certitude que ces causes ne seront profitables que si Allah Azza wa Jal le veut. Parce que al-musabbibu al-haqiqi hu Allah Azza wa Jal. Le vrai causateur, hein, celui qui permet une chose d'être profitable ou une chose d'être nuisible, ce n'est qu'Allah subhanahu وتعالى. سؤال غير الله عز وجل والاستعانة بالمخلوق نوعان. Qu'en est-il de demander aux gens et aussi de solliciter l'aide de quelqu'un? Est-ce que cela est interdit? Est-ce que cela est permis? Il faut savoir que demander l'aide des gens et solliciter le secours ou l'aide des gens est de deux sortes. الأول سؤال الناس والاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدرون عليه فيما لا يقدرون عليه وفيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك أكبر لا يجوز. Première sorte de demande des gens lorsqu'ils demandent l'aide à une personne ou lorsqu'ils font une requête à une créature, c'est de demander l'aide ou de solliciter une requête à quelqu'un dans ce qu'il ne peut rien faire, dans ce qu'il n'est pas capable ou dans des choses que seul Allah عز وجل est capable. Celui qui fait ça, c'est du shirk akbar. C'est un associationnisme majeur qui fait sortir de l'islam. الثاني سؤال الناس والاستعانة بالمخلوق فيما يقدرون عليه. فهذا يجوز ولكن تركه أحسن وأفضل. وكون الإنسان يسأل الله عز وجل وحده ويستغني به هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن. La deuxième sorte de demande d'aide ou de solliciter un secours, c'est de demander l'aide ou solliciter le secours à quelqu'un qui est capable de t'aider et de te proposer son aide. Ceci est permis. Dans les limites de la religion, ceci est permis. Mais délaisser cela est meilleur, parce que dans cela, il y a un avilissement et il y a une dépendance, parce que le fait que la personne ne demande qu'à Allah Azza wa Jal et se suffit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en utilisant les causes légiférées, ceci est meilleur et ceci est plus profitable. Al-fa'idatu al-rabi'ata ashar, أن العباد لا ينفعون ولا يضرون إلا إذا كان النفع والضر مقدرا من الله عز وجل، فلا يحصل لأحد نفع إلا إذا كان مقدرا من الله، ولا يندفع عنه ضرر إلا إذا كان مقدرا من الله عز وجل. فلا مانع لما أعطاه الله ولا معطي لما منعه الله، وأن كل شيء لا يخرج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. Quatorzième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que les gens, les personnes ne peuvent profiter ou ne peuvent nuire que si Allah subhanahu wa ta'ala a écrit et décrété ce profit ou cette nuisance. Donc, personne ne peut profiter d'un profit sauf si Allah azawajal a décrété ce profit. Et aucun mal ne peut disparaître sauf si Allah azawajal a écrit et décrété que ce mal allait disparaître. Et rien ne peut empêcher ce qu'Allah azawajal a donné, et nul ne peut donner ce qu'Allah azawajal a empêché. Et que toute chose ne sort jamais de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa puissance. Et ce qu'Allah azawajal veut, cette chose sera. Et ce qu'Allah azawajal ne veut pas, cette chose ne sera pas. Et cet enseignement, on le tire directement de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: et sache que la communauté, si elle se réunissait pour te faire un bien, ils ne te feront un bien que si Allah azawajal l'a décrété ainsi. Et les gens, s'ils se réunissaient pour te faire un mal, ils ne te feront un mal que si Allah azawajal a décrété que le mal te touchera. Le prophète sallam dit à la fin du hadith: les qalams sont levés et l'encre a séché. Et aussi dans l'autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et sache que ce qui t'a manqué ne t'atteindra pas. Ce qui t'atteint ne pouvait te manquer. Donc c'est ça le sens. C'est-à-dire que la personne, elle peut travailler, elle peut se marier pour avoir des enfants, elle peut prendre des médicaments, elle peut rechercher la guérison. Tout ça, c'est des causes qu'on doit faire, et ce n'est pas en contradiction avec la foi et la confiance en Allah Azzawajal. Mais est-ce que ces choses seront profitables ou pas? Tout ça dépend d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala. Al-fa'idatu al-khamisata ashar, annahu yajibu ala al-abdi al-i'timadu ala Allah Azzawajal, والتوكل عليه بتفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة حيث لا يعتمد على السبب نفسه بل يكون قلبه معلقا رجاؤه بالله عز وجل دون غيره فإن المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بقدر الله وإرادته سبحانه وتعالى وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. La quinzième leçon que l'on peut retenir de ce hadith nous enseigne qu'il est obligatoire de s'en remettre à Allah Azza wa Jalla, de lui faire confiance en laissant l'affaire entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en faisant les causes légiférées, mais de manière à ne pas s'en remettre à l'acte et à la cause en elle-même. Mais plutôt, la personne, son cœur doit être rattaché à Allah azawajal et dans l'espoir d'Allah azawajal et en personne d'autre. Dans l'espoir qu'Allah azawajal lui amène un bien ou lui évite un mal. Et les créatures ne peuvent produire un bien ou ne peuvent faire un mal que par la volonté d'Allah Azzawajal et par son décret. Et ceci, on le tire directement de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: Et si tous les gens se réunissaient pour te faire un bien, ils ne pourraient te faire un bien que si Allah Azza wa Jalla l'a décrété. Et si tout le monde, toute la communauté, se réunissait pour te faire un mal, ils ne pourraient te faire un mal que si Allah Azza wa Jalla l'a écrit contre toi. Al-fa'idatu sadisata ashar, dalla al-hadithu ala ajzi al-khala'iq kullihim wa iftiqarihim ila Allah. ودل الحديث على غنى الله عز وجل عن جميع المخلوقات فلا حول ولا قوة إلا بالله وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. La 16e leçon que l'on peut retenir de ce hadith montre l'incapacité des créatures, montre la faiblesse de l'homme et que Allah Azza wa Jal n'a besoin aucune de ses créatures. Et qu'il n'y a de puissance et de force que par Allah Azza wa Jal. Et ceci, on le tire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, lorsque tu demandes, demande à Allah, et lorsque tu sollicites l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et si toute la communauté se réunissait pour te faire un bien ou un mal, ce bien ou ce mal ne te toucherait que si Allah l'a écrit pour toi ou contre toi, dans le sens du hadith. Al-fa'idatu as-sabi'ata ashar, وجوب الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم بذلك والرضا به ويتفرع على ذلك فائدة عظيمة وهي اطمئنان القلب وراحة النفس بما يجري عليه من أقدار الله فلا يقلق العبد بفوات محبوب أو بحصول مكروه لماذا؟ لأن ذلك بقدر الله وهو كائن لا محالة وهذا أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وهذا كقوله سبحانه وتعالى في كتابه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. La 17e leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est l'obligation de croire au destin et au décret d'Allah Azza wa Jal. Et de se soumettre au destin et au décret d'Allah et de l'accepter. Et de cela découle un énorme bienfait. Quel est cet énorme bienfait? C'est la quiétude du cœur et la sérénité de l'âme concernant le destin subi par l'homme qui a été écrit par Allah Azza wa Jal. Ainsi, le croyant ne se tourmente pas pour un désir non satisfait ou une difficulté rencontrée. Pourquoi? Parce qu'il sait que cela fait partie du destin qu'Allah Azza wa Jal a écrit et que cela est inéluctable. Et ceci, on le tire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Et sache que la communauté, si elle se réunissait pour te faire un bien, il ne pourrait te faire un bien que si Allah Azza wa Jal l'a écrit pour toi. Et si les gens se réunissaient pour te faire un mal, il ne pourrait te faire un mal que si Allah Azza wa Jal l'a écrit contre toi. Et les qalams sont levés et l'encre est séchée. Et on retrouve le sens de ce hadith, cette partie du hadith, dans beaucoup de versets du Coran, notamment la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit dans le sens du verset, « Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah Azza wa Jal. » Et celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. الفائدة الثامنة عشر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بشيء قد كتبه الله لك وقوله إلا بشيء قد كتبه الله عليك هذا لا يعارض العمل ولا يدل على ترك العمل بدليل أول الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فسؤال الله عز وجل والاستعانة به عملان من أعمال القلب والجوارح التي يثاب العبد عليها وجاء في الحديث صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو من النار فقال رجل من القوم فلما العمل يا رسول الله ألا نتكل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. La 18e leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est concernant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit les qalams sont levés et l'encre a séché, en parlant du destin. Et lorsqu'il dit les gens ne peuvent te faire un bien que si Allah l'a écrit, ou ne peuvent te faire un mal que si Allah azza wa jalla l'a écrit. Ces paroles-là ne sont pas en contradiction avec le fait de vrai. Et ces paroles-là ne veulent pas dire que la personne doit délaisser les œuvres parce que tout a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Parce que d'une part, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu implores l'aide d'Allah azza wa jalla. » Et demander l'aide d'Allah, implorer l'aide d'Allah azza wa jalla, en faisant aussi les causes qui sont légiférées, tout ceci sont des actes et des œuvres du cœur et des membres pour lesquels la personne elle est récompensée. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on peut pas utiliser le destin pour dire qu'on va délaisser les actions et que ce hadith est en contradiction avec le fait de délaisser ou de faire les actions. Non. Parce que veut dire le destin d'Allah azza wa jalla? Le destin veut dire qu'Allah azza wa jalla, il est savant, subhanahu wa ta'ala, de tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et de tout ce qui va se passer. Allah azza wa jalla, il sait ça, subhanahu wa ta'ala. Et de par sa science, Allah azza wa jalla sait ce que les serviteurs vont faire comme obéissance ou désobéissance. Ce qu'ils vont faire comme action, comme parole. Et Allah azza wa jalla a dit au qalam de l'écrire. Il a dit au qalam, écris. Il lui a dit, que dois-je écrire? Il lui a dit, écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps par la science d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah Azza wa Jal sait ce qui va se passer, donc il l'a écrit, Jalla Jalalu. D'accord? Et aussi le hadith qui est rapporté par le Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a décrété à chacun sa place au paradis et en enfer. Alors les compagnons ont dit, ô prophète d'Allah, et c'est ce qui peut venir à notre esprit, devons-nous nous résigner à ce qui a été écrit? Et ne pas faire d'action, et abandonner les actions, les œuvres, puisque tout est décidé. Ceci est une mauvaise compréhension du destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, agissez, car toute chose est facilitée pour la chose à laquelle a été destinée. Et ce hadith est rapporté par le Bukhari et le Muslim. Al-fa'idatu tasi'ata ashar, al-hathu ala sabr. Wa anna man lazama sabr, fa inna Allah yansuruhu. Wa hada fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, واعلم أن النصر مع الصبر وهذا كقوله عز وجل إن الله مع الصابرين. La 19e leçon que l'on peut retirer de ce hadith, c'est que ce hadith nous incite à patienter. Et celui qui patiente et que la patience l'accompagne, eh ben cette personne-là, Allah Azza wa Jal va donner le secours. Et ceci on le tire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit sache que la victoire accompagne l'endurance, la patience. Et on retrouve le sens de ce hadith dans beaucoup de versets du Coran. Entre autres, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah Azza wa Jal est avec ceux qui patientent. Lorsque la personne patiente, pas inactivement, lorsque la personne patiente, Allah Azza wa Jal va lui donner le secours. Wa sabru thalathatu anwa'. As-sabru ala fi'li ta'at. Fi'lu ta'at yahtaju ila sabr. As-sabru ala ترك المعاصي فترك المعاصي تحتاج الى صبر والنوع الثالث الصبر على اقدار الله المؤلمه. Et la patience est de trois catégories. La première catégorie de la patience, c'est de patienter dans l'obéissance d'Allah. Rester assidu à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal demande de la patience. Deuxième sorte de patience, c'est de patienter face à la désobéissance. Face au péché, il faut rejeter, mais il faut patienter jusque la mort face au péché. Et troisième forme de patience, c'est de patienter face au destin lorsque ce destin nous touche dans des malheurs ou dans des difficultés. Il faut faire preuve de patience et même, encore mieux, faire preuve d'agréer ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Al-fa'idatu al-ishroun, al-bisharatu al-azimatu bi-anna tafrij al-kurubat wa izalat al-shada'id مقرون بالكرب فكلما كرب الإنسان الأمر فرج الله عز وجل عنه وهذا أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم وإن الفرج مع الكرب وهذا كقوله تعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته.
وكقوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا.
La 20e leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'il y a une annonce et une grande nouvelle qui est faite. Quelle est cette annonce et cette nouvelle? C'est la délivrance des difficultés et des gênes est rattachée avec la difficulté. Plus la personne vit dans la difficulté, cela veut dire que la délivrance d'Allah Azza wa Jal va bientôt venir. On ne parle pas de celui qui boit de l'alcool, qui fait zina, qui fait du shirk, qui fait des bid'a et qui est éprouvé d'Allah. Son épreuve à lui est une punition. On parle du croyant qui adore Allah Azza wa Jal et qui rencontre des difficultés, qui rencontre des gênes. Eh bien, ce croyant doit savoir qu'avec ces difficultés, bientôt la délivrance va arriver. Et ça, on le tire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Sache que le soulagement arrive après la difficulté ». On retrouve le sens de cette partie du hadith dans beaucoup de versets du Coran. Comme par exemple la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit « C'est lui qui a fait descendre la pluie après qu'ils ont désespéré et qu'il a répandu sa miséricorde ». Et comme la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit « Et quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils ont été traités de menteurs, voilà qu'est venu notre secours ». Bien sûr, ceci pour les croyants qui observe les droits d'Allah Azza wa Jal. الفائدة الواحدة والعشرون البشارة العظيمة بأن الإنسان إذا أصابه العسر فلينتظر اليسر. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم وإن مع العسر يسرا. وهذا كقوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. الحمد لله الذي جعل بعد العسر يسرين. وكقوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. La 21e leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est une annonce et une bonne nouvelle qui est faite à celui qui est touché par les difficultés, au croyant qui adore Allah Azza wa Jal, qui est loin des interdictions et qui est touché par la difficulté. Que ce croyant-là, qu'il attende la facilité d'Allah Azza wa Jal. Et ceci, on le tire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Et sache que la facilité arrive après la difficulté ». Et on retrouve le sens de ce hadith dans beaucoup de versets, comme Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit « Et après la difficulté, la facilité, et après la difficulté, la facilité ». Alhamdulillah qu'Allah Azza wa Jalla a fait qu'après une difficulté, il y a deux facilités. Ainsi disaient les pieux prédécesseurs. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi « Allah mettra après la difficulté une facilité ». Al-fa'idatu al-thaniyatu al-ishroun ma hiya hikmatu rabti al-sabr bil-nasr wa rabti al-karb bil-faraj وربط اليسر بالعسر. الحكمة هي ربط القلوب بالله عز وجل في حال الشدة والعسر والكرب حتى يتوجه العبد إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى ليفرج عنه. La 22e leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est quelle est la sagesse dans ce hadith du fait de rattacher la difficulté avec la facilité. De rattacher la difficulté avec la délivrance, la facilité avec la difficulté et aussi le secours avec la patience. Le secret dans ceci et la sagesse, c'est que ceci nous apprend à rattacher notre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les situations de difficulté, dans les situations d'adversité, dans les situations d'épreuve, de rattacher notre cœur à Allah azza wa jal, de se diriger vers Allah Azza wa Jal, et ceci est le cas du monothéiste, de celui qui adore Allah Azza wa Jal et qui croit en lui subhanahu wa ta'ala. الفائدة الثالثة والعشرون وهي الأخيرة أن هذا الحديث دليل على رحمة الله عز وجل بعباده حيث جعل الله عز وجل بعد العسر يسرا وبعد الكرب الفرج ومع الصبر النصر. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. La 23e leçon que nous allons citer, et c'est la dernière, c'est que ce hadith montre la miséricorde d'Allah, la compassion d'Allah, la bienveillance d'Allah Azza wa Jal envers ses créatures. Regardez, Allah Azza wa Jal a fait que après la difficulté, il y a la facilité. Après les épreuves, il y a la délivrance. Après la patience, il y a la victoire. Et ceci, on le retrouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Sache que la victoire accompagne l'endurance, que le soulagement arrive après l'épreuve et que la facilité arrive avec la difficulté. » Voilà pour ce qui est du hadith. Nous allons le lire une dernière fois, inshallah. « An Abi al-Abbas, Abdillah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. Donc d'après Abu al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il raconte, il dit, un jour que j'étais derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il me dit, ô jeune homme, je vais t'apprendre certaines paroles. Sois attentif envers Allah, et Allah azza wa jal sera avec toi. Sois attentif envers Allah, et tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, adresse-toi à Allah. Et lorsque tu sollicites une aide, sollicite l'aide d'Allah. Et sache que si la communauté tout entière conjuguait ses efforts pour te faire profiter d'une chose, tu n'en profiterais que si Allah Azza wa Jal l'a inscrite comme telle pour toi. Et par contre, si la communauté conjuguait ses efforts pour te nuire, elle ne pourrait le faire que si Allah Azza wa Jal l'avait décrété ainsi à ton encontre. Désormais la plume est rangée et l'encre des pages séchée. Et le hadith est rapporté par Tirmidhi et il dit que c'est un hadith hasanun sahih. Et dans une autre version que celle de Tirmidhi, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sois attentif envers Allah, tu le trouveras devant toi. Rappelle-toi d'Allah dans l'aisance, il se rappellera de toi dans l'adversité. Et sache que ce qui t'a manqué ne t'atteindra pas. Ce qui t'atteint ne pouvait te manquer. » Et sache que la victoire accompagne l'endurance, que le soulagement arrive après l'épreuve, que la facilité arrive après la difficulté. Voilà pour ce qui est de ce hadith. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.